encore pour cette invitation aussi, qui vient de Dominique au départ.
Donc, je m'appelle Sylvain Laval, je suis professeur de recherche en philosophie. Et je suis plus ou moins un collègue de Jérôme, d'une certaine manière, parce que je suis associé au groupe de recherche dans lequel il est même à la HSS. Et je suis un petit peu le philosophe de la bande, hein, personne n'est parfait. Et alors j'espère que ce que je vais vous dire là n'est pas totalement décalé. Et en même temps, j'espère que c'est totalement décalé, que ça va vous permettre de changer peut-être votre regard, de faire un certain détour. Pour finalement, à la fin, je l'espère, comprendre pourquoi je vous ai parlé de tout ça, même si vous ne comprenez pas forcément au début. Alors je voudrais revenir sur cette question du changement humain qui nous occupe ici, puisque bon, la question que je traite, hein, c'est les voies du changement humain, voies au pluriel. C'est une question très classique, en fait, et ancienne de la philosophie. Et qui se trouve avoir une résonance particulière aujourd'hui, puisque justement, dans le contexte de la crise écologique, hein, nous sommes confrontés à cette nécessité, hein, de rentrer dans un processus de changement. Et d'une certaine manière, le changement à notre époque, et peut-être plus qu'à d'autres époques encore, est de nature paradoxale, hein, parce que il semble que pas mal de gens le reconnaissent comme une sorte de nécessité, hein, presque vitale, une question de survie, presque. Et en même temps, face à la nature, hein, l'ampleur et la vitesse des changements qu'il faut accomplir, sont confrontés à une très grande difficulté, hein, de mettre en œuvre ce changement. Et donc c'est tout le problème aussi du passage du discours à l'action, qui fait courir le risque de tomber dans une sorte de contradiction entre la pensée et la conduite, et par suite le risque de rater, hein, ce changement. Hein, c'est un peu en somme, hein, faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Plus exactement, fais ce que je dis, mais pas ce que je ne fais pas. Ou fais ce que je dis, mais pas ce que je ne peux pas faire, alors que pourtant je dois le faire. Voyez, c'est ça la contradiction dans laquelle on est aujourd'hui. Alors c'est un paradoxe modal, au sens où le modal, c'est ce qui s'intéresse au possible, à l'impossible, au nécessaire, au contingent. D'un côté, on a un changement qui est considéré comme nécessaire, obligatoire. Il va se produire, il doit se produire. Et de l'autre, nous avons un changement qui est entrevu comme simplement possible, contingent, libre, il peut se produire ou il peut aussi ne pas se produire. Voilà. C'est ce passage entre ce qu'on doit ou devrait faire et ce qu'on fait ou on ne fait pas, hein, que je trouve particulièrement intéressant et au cœur, en fait, du paradoxe, hein, du passage du discours à l'action. Hein, ça nous renvoie à la question de la justification de ce changement, hein, de l'absence de changement, auquel le recours à la raison, à la rationalité, permet d'apporter une solution sur le mode « à partir du moment où j'ai de bonnes raisons de changer, alors je change ». Voilà. Dès que j'ai des bonnes raisons, je vais changer. Ça ne se passe pas comme ça, en fait. Hein, pas tout à fait ou pas toujours, en tous les cas. Et ce que je voudrais suggérer, c'est que, afin d'éviter d'enfermer le problème dans celui des justifications rationnelles, hein, du changement, au contraire, certainement élargir l'éventail, et se poser la question, hein, de la justification dans le sens, hein, de la force ou de l'efficacité, hein, qu'elle peut avoir, et efficacité aussi, hein, en matière de passage à l'action. Donc c'est ce problème de la justification du changement, hein, le problème de l'existence ou de l'absence, hein, de justification du changement, de la nature et de la pertinence de cette justification, et de la force et de l'efficacité de cette justification. Donc voici, en fin de compte, quels sont le ou les problèmes, hein, du changement humain. La question à 1 000 euros, je devrais même dire à 1 million d'euros, qu'est-ce qui fait que quelqu'un change, hein, ou ne change pas, hein, si vous avez une réponse à cette question, gardez-la et déposez un brevet dessus, vous deviendrez millionnaire. Hein, c'est vraiment une question très, très difficile, en fin de compte, hein, qui a l'air toute simple comme ça dans sa formulation. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui doit changer, en réalité, ne change pas? Qu'est-ce qui fait changer l'individu? Est-ce que ce sont des raisons qui sont tenues pour nécessaires et suffisantes? Ou est-ce que c'est autre chose, hein, des expériences, des passions, des événements? Est-ce qu'on peut invoquer pour l'absence de changement, par exemple, la mentalité conservatrice, la faiblesse de la volonté, hein, ce qu'on appelle dans le jargon l'acrasie, la force de l'habitude, hein, qui pourrait constituer un frein? Est-ce que le changement doit passer par une sorte d'ascèse, hein, par des sacrifices ou des exercices, hein, comme le semble suggérer la notion de sobriété heureuse? On doit être sobre et en même temps heureux. C'est sans doute plus facile à dire qu'à faire. Et pour faire le lien avec la question d'aujourd'hui, est-ce que une transition écologique peut se contenter d'un changement matériel, ou est-ce qu'elle doit l'associer nécessairement à un changement spirituel? J'emploie le mot spirituel ici, il faut de mieux, mais aussi parce que, comme vous allez le voir, hein, je lis ça à la notion d'exercice, exercice spirituel. Alors je voudrais repartir d'une citation de l'ouvrage de Pierre Rabhi, « Vers la sobriété heureuse », hein, qui, me semble-t-il, indique, même si c'est de façon suggestive, quelques-uns des points que je vais aborder. Il m'a toujours été difficile de définir, de décrire la sobriété telle que je la ressens depuis de nombreuses années. En faire une option de vie déjà beaucoup, mais cela est loin d'en révéler la subtilité. Elle peut être considérée comme une posture délibérée, hein, pour protester contre la société de surconsommation. C'est dans ce cas une forme de résistance déclarée à la consommation outrancière. Elle peut être justifiée par le besoin de contribuer à l'équité, dans un monde où surabondance et misère cohabitent. Le monde religieux en a fait une vertu, une ascèse. Alors, la sobriété heureuse, c'est une ascèse, semble-t-il, tel que nous suggère Rabhi. En réalité, c'est un peu tout cela, mais plus que cela. Donc il y a une difficulté à définir, hein, cette sobriété heureuse pour Rabhi, qui est récurrente dans son ouvrage. Et en même temps, on voit bien que il y a quelque chose d'assez profond, hein, dans ce changement vers la sobriété heureuse, qui est en fait un changement d'option de vie, qui est une posture délibérée de résistance à une société de consommation sur consommation, qui est une contribution à l'équité aussi, et qui pourrait passer par une ascèse aussi. Alors voilà la thèse que je voudrais défendre ici, hein, c'est la thèse selon laquelle le changement humain non seulement ne suit pas la voie de la seule raison, mais de plus n'est pas toujours le produit d'une action du fait de la force de l'habitude. Donc je reviendrai sur ces différents points. Et c'est une thèse qui revient finalement à soutenir l'idée d'une pluralité de voies, hein, du changement humain, en plus de la voie qui est souvent privilégiée, hein, du changement, hein, selon le discours rationnel fondé sur des arguments qui sont censés à eux seuls nous faire changer de position en fait. Et ces voies multiples du changement peuvent apparaître comme plus ou moins pertinentes et adaptées au contexte, hein, d'une société, d'une communauté ou même d'un individu. Donc si l'on emprunte cette voie du pluralisme, hein, du changement humain, et non pas, hein, de la voie du discours, de la raison, etc., qui est parfois invoquée, ça suppose qu'on assume, hein, la difficulté, la complexité et l'incertitude du changement. Au plan individuel, il n'y a pas de one best way, hein, la seule voie unique qui sera en même temps la meilleure. Mais en même temps, on voit bien qu'au plan collectif, hein, si on raisonne en termes de projet de transformation sociale, il faut avoir un minimum, un plan qui propose un chemin clair, sûr, cohérent. Voilà. En tout cas, dans une certaine mesure. Alors l'hypothèse que je voudrais faire, hein, c'est que la notion ancienne d'ascèse, qui implique doublement en fait le sacrifice et l'exercice, ça veut dire ça en fait l'ascèse, hein, c'est l'exercice, à proprement parler, askésis en grec, mais qui est étroitement lié à la notion de sacrifice aussi, et on verra ce que ça peut recouvrir comme sens, peut être utile afin de montrer l'ambivalence des voies du changement humain, hein, qui se trouve au principe même du développement durable et aujourd'hui de la transition écologique. Et notamment, cette notion d'ascèse peut être utile parce qu'elle fait écho à cette expression de sobriété heureuse, hein, qui peut suggérer d'autres voies de motivation en faveur du changement. Ça veut donc dire qu'au-delà des modes matériels de l'incitation au changement, que l'on peut trouver par exemple dans les incitations fiscales, dans le discours publicitaire, la communication qui repose sur le mode de l'incitation, il y a sans doute d'autres modes, plus spirituels sans doute, qu'il convient d'activer et qui permettent d'examiner, de construire le sens, la signification du changement pour les acteurs. Hein, donc ça équivaut finalement, si on oublie cette notion d'ascèse, à suggérer que, disons, une voie de changement selon une révolution matérielle, comme par exemple lorsqu'on parle de la troisième révolution industrielle, avec des modèles à la Rifkin, n'est pas suffisante, et qu'il faut sans doute envisager des modes de changement plus spirituels, entre guillemets, mais sans que ce soit forcément très facile de définir ce qu'on entend ici par spirituel. Donc je vais procéder de la manière suivante, hein, je vais essayer de montrer comment le problème du changement s'est posé en philosophie. Je reviendrai sur la notion d'ascèse, avec le double sens exercice et sacrifice. J'essaierai de montrer quels sont les différents modèles du changement humain qu'on peut envisager. Et j'illustrerai ça par des cas de changement humain, hein, qui vont montrer la difficulté en fait du modèle rationnel qui passe par le discours, les arguments, etc. Et donc j'évoquerai cette question du passage du discours à l'action en montrant à quel point les habitudes peuvent jouer en fait, dans ce passage. Alors tout d'abord, la façon dont le changement a été pensé en philosophie, c'est assez étonnant quand on se repenche sur l'histoire, parce que finalement, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer, nous qui sommes un peu déformés par le prisme de la modernité, le changement n'a pas bonne presse dans l'histoire de la philosophie, dans la philosophie antique. Autant on peut reconnaître, comme le font des philosophes classiques, que dans le domaine de la science ou de l'art, il y a du changement, autant le changement de la société est perçu comme une menace majeure pour la stabilité de l'ordre social. Et d'une certaine manière, le changement est considéré comme un problème fondamental pour la philosophie, dès l'origine, même s'il y a une espèce de refus du changement qui pourrait toucher la société parce qu'il est perçu comme une menace. Et on voit ici qu'il y a des divergences très profondes entre la tradition de la philosophie occidentale et celle de la philosophie orientale, la philosophie orientale étant beaucoup plus favorable à la question du changement, qu'elle voit comme un processus et comme une adaptation, en fait. Alors si on s'inspire de la sagesse commune, premier degré de la philosophie, vous avez cette fameuse expression « il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas ». C'est très profond, cette phrase, même si elle n'a l'air de rien. Si on voulait en faire l'analyse, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais simplement, ce que je voudrais suggérer, c'est que ce n'est qu'une expérience de pensée, dans le fond, parce qu'elle laisse supposer qu'il y aurait des individus qui changent et d'autres qui ne changent pas, sous-entendu pas du tout. Or, c'est faux. Tout le monde change, en fait. Tout le monde change. Mais simplement, ce qui est correct de dire, je pense, c'est que... les êtres humains changent certaines choses en eux, ou certaines choses changent en eux, et il y a des choses en eux qui ne changent pas. Donc il y a en fait une variété, une diversité, de modalités du changement, de l'absence de changement, et pas juste cette opposition binaire entre ceux qui changent et ceux qui ne changent pas. Et on peut dire qu'il y a changement et changement. Vous avez d'un côté changer de voiture ou de chaussure, et changer de vie ou changer de monde, par exemple, vous voyez, c'est une question qui est très débattue aujourd'hui. C'est une espèce de fantasme contemporain de changer de vie complètement. Vous voyez, vous n'en pouvez plus de votre vie. Vous êtes trader à la City, à Londres, et vous rêvez d'élever des chèvres dans les Alpes. Et donc, vous étiez banquier, vous devenez boulanger. Bon, je connais plein de gens dans mon entourage qui font ça aujourd'hui. C'est peut-être très bien, d'ailleurs, parce que... mais on voit bien que ce n'est pas la même chose que de changer de voiture ou de chaussure. C'est vraiment un changement d'une autre nature. Et on peut supposer que c'est un changement de cette nature-là qui est peut-être, nécessaire si on envisage une transition écologique. On a toute cette tension entre le réel et l'idéal. Ce n'est pas la même chose de dire, de faire le constat « je change de vie ou ma vie change » et de se référer à une obligation. Et là, on rejoint la dimension morale qu'évoquait Jérôme tout à l'heure. Je dois changer de vie. C'est le titre d'un ouvrage de Sloterdijk. Tu dois changer ta vie. Oui. Comme une sorte d'impératif, vous voyez, qui vous tombe dessus et dont vous devez vous débrouiller. Et ensuite, il y a la question du comment, mais aussi la question du pourquoi, c'est-à-dire de la motivation du changement aussi, qui est évidemment importante. Alors, je voudrais vous faire un petit florilège de remarques, de citations sur le changement, qui permet de faire la différence entre les origines de la tradition philosophique occidentale et de la tradition philosophique orientale. Au début, si je puis dire, si une telle chose existe, il y a une certaine convergence. Je vous cite Héraclite, rien n'est permanent sauf le changement. Et Bouddha, il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Donc le changement, c'est la donne naturelle de l'existence du monde. C'est après que ça se corse un petit peu, dans l'après des origines, lorsque la philosophie occidentale commence à s'instituer. Et au moment où elle commence à adopter finalement une posture presque de conjuration et à l'égard du changement, en tout cas pour ce qui concerne la société. Alors quelques petites citations de Confucius que je trouve très savoureuses pour le sujet qui nous intéresse, qui pourrait à elle seule faire toute une philosophie du changement. Celui qui déplace la montagne, c'est celui qui commence à enlever les petites pierres. Donc l'idée, voyez, du sens que peut avoir le petit geste, déplacer les petites pierres, alors qu'on a en tête un projet beaucoup plus grandiose qui est de déplacer une montagne. Ça commence par ça. Deuxième citation, celui qui parle trop agira difficilement. C'est le problème du discours et du rapport du discours à l'action. Voilà. On a une espèce de pléthore de discours aujourd'hui. les passages à l'acte sont moins nombreux, ou en tout cas plus délicats, effectivement. Et on peut se demander si on ne faudrait mieux pas inverser finalement la chose, mettre l'action avant le discours. Nulle pierre ne peut être polie sans friction, nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve. C'est tout le problème des épreuves de l'action, hein, donc de ce qu'on pourrait appeler l'expérimentation aussi, hein, des changements, hein, et des voies du changement. Peut-être qu'il faut en passer par ça aussi, et si on veut engager une action. Notre plus grande gloire n'est point de tomber, mais de savoir nous relever chaque fois que nous tombons. Hein, ici, c'est la question de l'échec, hein, et de la tentative qui, bien que pouvant être très déterminée, résolue, avorte, hein, tombe dans l'erreur éventuellement. Mais ce que nous dit ici Confucius, c'est pas grave, c'est normal de ne pas y arriver. Il faut pouvoir se relever. Hein, c'est là, hein, qu'on peut tirer gloire, hein, de notre changement. Qui ne se préoccupe pas de l'avenir lointain se condamne aux soucis immédiats. Hein, c'est tout le rapport entre le court terme et le long terme de l'action, hein, qui est un gros problème aujourd'hui, ne serait-ce que dans notre capacité à nous représenter parfois des échelles de temps, hein, qui sont très très éloignées de notre horizon quotidien. Alors on voit ici que dans la philosophie orientale et la philosophie occidentale, il y a, à partir de ce moment inaugural, hein, des premières sagesses philosophiques, une divergence qui se fait jour très nettement, avec d'un côté une option qui est prise dès le départ par la philosophie occidentale et qui caractérise d'une certaine manière l'esprit occidental jusqu'à aujourd'hui, hein, qui est un changement conçu selon le modèle, j'allais dire le modèle du modèle, c'est-à-dire le fait que nous envisageons le changement à partir du plan, hein, du projet, c'est-à-dire le modèle qui va servir de référence, qui va guider notre action, et de façon différente, une philosophie orientale, hein, qui, elle, est complètement fondée sur la notion de processus, c'est-à-dire d'identification des potentialités que recèlent les processus, et donc la façon dont l'action doit composer avec ce changement, hein, dans les processus, en tirant profit de façon opportune de certaines voies qui s'ouvrent, d'autres qui se ferment, mais en tout cas, hein, qui évoluent en permanence. Voilà. C'est deux modèles tout à fait différents, en fait. Et on se demande parfois si nous ne devrions pas être un peu orientaux, hein, dans notre manière de penser le changement aujourd'hui, tellement nous sommes dépendants, hein, du modèle qui fait référence, du projet, du plan, etc.